Les rois Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 10 août 2022, en direct de Washington, Idrissa Sebulia. Pour commencer, les titres. Les États-Unis préoccupés par des informations sur un soutien du Rwanda à la rébellion M23. Visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en RDC hier avant le Rwanda aujourd'hui. Au Burkina Faso, 15 soldats ont été tués lors d'une double attaque à l'engin explosif commise par des djihadistes présumés dans le nord du pays. En Guinée, le gouvernement annonce la dissolution d'un collectif contestataire, le FNDC. Présidentielle au Kenya, dépouillement en cours et appel à la patience avant les résultats sur fond de flambée du coût de la vie et de frustration à l'égard de l'élite politique. Tempête politique ici aux États-Unis après la descente du FBI dans la résidence de l'ex-président Trump en Floride. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les tensions entre Kinshasa et Kigali sont au centre de la visite du chef de la diplomatie américaine en RDC. Anthony Blinken a affirmé mardi que les États-Unis sont préoccupés par des informations crédibles qui font état d'un soutien rwandais aux rebelles du M23. Le point avec Abdourahmane Dia.
À l'issue d'un entretien avec le président congolais Félix Tshisekedi, le patron du département d'État américain a appelé tous les pays à respecter l'intégrité territoriale de leurs voisins. Toute entrée de forces étrangères en RDC doit se faire de manière transparente et avec le consentement de la RDC. C'est la raison principale pour laquelle je suis ici, a indiqué M. Blinken. Il a assuré que Washington ne fermerait pas les yeux sur cette question qui est à l'origine d'une remontée des tensions entre la RDC et le Rwanda depuis la reprise des activités du groupe rebelle M23. Kigali dément tout soutien à ce groupe. M. Blinken a demandé au M23 et à tous les groupes armés de déposer les armes et d'intégrer le processus de paix. Il a affirmé que les États-Unis apportent un soutien aux très importants efforts de médiation menés par l'Afrique. Après la RDC, le patron de la diplomatie américaine se rend aujourd'hui au Rwanda.
Pour rester en RDC, l'ex-chef de l'UDPS, le parti présidentiel récemment passé à l'opposition, a été arrêté à Kinshasa et transféré en prison dans le cadre de poursuites pour outrage au chef de l'État. Ginny Noua.
Député et ancien vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboun a été placé sous mandat d'arrêt provisoire à la prison de Makala. Il est poursuivi pour outrage au chef de l'État, imputation dommageable et diffamation lors d'une conférence pour annoncer la création de son parti politique, Alliance pour le changement. Monsieur Kaboun avait reproché l'absence de vision claire, l'incompétence notoire et la mégestion institutionnalisée, caractérisée par l'insouciance, l'irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l'État par le camp du président Félix Tshisekedi. Pour l'activiste Floribert Anzoulini du mouvement pro-démocratie Filimbi, l'intolérance croissante à l'égard des critiques du régime au pouvoir depuis janvier 2019 risque de compromettre la tenue d'élections libres, crédibles en 2023.
Au Burkina Faso, 15 soldats ont été tués dans une double attaque hier à Namsidia, dans la province du Bam, dans le centre nord du pays, selon l'état-major burkinabé. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le double incident, l'engin explosif improvisé qui a fait 15 soldats tués, s'est produit sur l'axe Bourzanga-Djibo lors d'une mission d'escorte d'une unité militaire. L'état-major explique qu'un des véhicules du convoi a sauté sur un engin explosif à hauteur de la localité de Namsigia, province du Bam, région du centre-nord. Alors que s'organisaient les opérations de secours, un deuxième engin a manifestement été activé à distance, causant de nombreuses victimes, indique le communiqué. Le bilan des deux incidents fait état de 15 militaires tombés, affirme l'état-major, qui précise que des dégâts matériels ont également été enregistrés. Des renforts ont été dépêchés sur les lieux de l'incident pour assurer l'évacuation des victimes, selon l'état-major burkinabé. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le Mali a réceptionné hier de nouveaux équipements militaires livrés par son partenaire russe, a constaté un journaliste de l'AFP mardi à Bamako. Au cours d'une cérémonie officielle en présence de diplomates russes du colonel Assimi Goïta, le chef de la junte au pouvoir, le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, a vanté le partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. Pour leur part, les partenaires occidentaux critiquent le recours de Bamako au groupe russe Wagner. Le gouvernement malien dément et parle de partenariat ancien avec l'armée russe. En Guinée, un collectif qui s'oppose depuis plusieurs mois à la junte au pouvoir a été dissous par un arrêté du gouvernement alors qu'il préparait une nouvelle manifestation. Les détails avec Rosine Mounezero.
L'annonce de la dissolution du Front national de la défense de la Constitution est sortie alors qu'un nouvel appel à manifester le 17 août a été lancé par le FNDC. Selon le gouvernement, le mode opératoire du FNDC se structure par des actions violentes au cours de manifestations interdites, des attaques contre des individus qui ne partagent pas leur idéologie et des actions ciblées contre les forces de l'ordre. Le collectif s'est refusé de commenter cet arrêté, estimant ne pas être concerné. Le FNDC avait suspendu ses mouvements pour une semaine, à la demande du chef de l'État bissau-guinéen Oumaro Sissoko Embalo, président en exercice de la CDAO. Deux leaders du FNDC sont détenus depuis les dernières manifestations pour outrage aux autorités guinéennes.
Les opérations de dépouillement ont débuté mardi soir au Kenya où les électeurs se sont déplacés dans le calme pour désigner leur nouveau président sur fond de flambée du coût de la vie et de frustration à l'égard de l'élite politique. La commission indépendante électorale, qui a jusqu'au 16 août pour annoncer les résultats, a appelé les Kenyans à la patience. Sont en lice pour la présidentielle quatre candidats dont Raila Odinga, 77 ans, vétéran de l'opposition soutenue par le président sortant Uhuru Kenyatta et son principal challenger, le vice-président William Ruto, 55 ans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La descente spectaculaire du FBI lundi en Floride dans la résidence de l'ex-président américain Donald Trump a exacerbé le débat politique déjà très polarisé ici aux États-Unis. Cette action a marqué une escalade des enquêtes sur le 40e, 45e président, suscitant les acclamations de ses adversaires politiques et la condamnation de ses alliés. Les détails avec Nanit Talani.
Rien de tel n'est jamais arrivé à un président des États-Unis, a déclaré Donald Trump, qui était absent de Mar-a-Lago au moment de la perquisition. La police fédérale a refusé de fournir une raison pour cette démarche. Mais, selon la presse américaine, elle serait liée à la gestion de documents secrets envoyés à Mar-a-Lago lorsque M. Trump a quitté la Maison-Blanche. Andrew McCabe, ex-directeur adjoint du FBI, pense que les agents pouvaient être à la recherche de quelque chose de spécifique lié à leur enquête sur le traitement des informations classifiées. La présidente du Parti républicain, Rona McDaniel, a qualifié ce raid de scandaleux. L'ancien vice-président Mike Pence a exprimé sa profonde inquiétude. Pour le sénateur républicain Lindsey Graham, proche de Trump, cette enquête si près d'une élection est plus que problématique. Personne n'est au-dessus de la loi. Pas même un ancien président des États-Unis, a déclaré Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants. Le sénateur démocrate Chris Murphy a déclaré, je cite, « Une fois que nous décidons que les riches et les puissants sont au-dessus de la loi, nous cessons d'être l'Amérique. »
Au Pérou, le parquet et la police ont effectué mardi soir une perquisition au palais présidentiel afin d'arrêter la belle-sœur du président Pedro Castillo, soupçonnée de participation à un réseau de corruption et de blanchiment d'argent. L'opération pour capturer Yennifer Paredes, infructueuse, a été lancée à la demande du parquet, requérant la perquisition de la zone résidentielle du palais présidentiel à Lima, a déclaré la Cour de justice dans un communiqué. Des explosions ont fait un mort et des blessés mardi dans un dépôt de munitions sur le site d'un aérodrome militaire de la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée par la Russie. Selon l'armée russe, aucun tir ni bombardement n'avait été à l'origine de ces déflagrations. Par ailleurs, la Russie a lancé mardi du Kazakhstan un satellite iranien d'observation qui, selon la presse américaine, pourrait être utilisé par Moscou pour soutenir son offensive en Ukraine, ce que réfute Téhéran. Lamon Dozier, l'un des plus grands chanteurs et auteurs-compositeurs de soul du label Motown, qui a écrit pour les Supremes, Marvin Gaye et les Isley Brothers, est mort à l'âge de 81 ans, a annoncé son fils mardi. La Minute Éco, Mohamedou Humfa.
Olam Palm Gabon, filiale de la multinationale agro-industrielle singapourienne Olam, a accru sa production de noix de palme de près de 450 000 tonnes en 2021, une hausse de 57%, ce qui lui a permis de produire environ 107 000 tonnes d'huile de palme brute et 6 000 tonnes d'huile palmiste. Ces bonnes performances sont portées par une conjoncture favorable dans la filière huile de palme, dont la tonne se négocie autour de 610 dollars. La banque djiboutienne Salam African Bank a acquis Top Finance Bank Limited, basée en Ouganda, a annoncé lundi la banque centrale ougandaise qui a approuvé l'opération, annoncée dans le cadre d'une stratégie d'expansion qui a amené Salam African Bank à s'implanter en Malaisie, en Éthiopie et au Kenya, entre autres. L'acquisition permettra à la banque djiboutienne, constituée en 2017, de proposer aux ressortissants ougandais des produits financiers 100% islamiques. En Sierra Leone, le Parlement a adopté lundi deux lois qui, selon les observateurs, visent à renforcer les droits des propriétaires terriens de sexe féminin et vivant dans les zones rurales. Un minimum de 30% de femmes seront exigées dans la composition de comités locaux d'utilisation des terres. Habitants et ONG dénoncent régulièrement la mainmise des grandes entreprises et multinationales sur les terres agricoles. Avec ces lois, le gouvernement espère pouvoir mieux encadrer les investissements et réduire les conflits fonciers.
Merci Mohamedou. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le tirage au sort des matchs interclubs de la CAF a eu lieu au Caire en Égypte.
Oui, la course à la succession du Wydad Casablanca en Ligue des Champions et de la Renaissance sportive de Berkane en Coupe de la Confédération est lancée pour le premier tour préliminaire en Ligue des Champions, à suivre entre autres le RCK du Burkina Faso contre Ashanti Côte d'Ivoire du Ghana, Stade Mandji du Gabon reçoit Plateau United du Nigeria, l'AS Negelec du Niger fait face à Sowar de la Guinée, le Real Bangui de la Centrafrique joue Vipers de l'Ouganda, Coton FC du Bénin fait face à l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, ou encore les Hawks de la Gambie jouent Oruya de la Guinée. À suivre également, Asco du Togo contre Noadibou de la Mauritanie, Casasport du Sénégal fait face à la JS Kabylie de l'Algérie. Il y aura un tour préliminaire dont les matchs allés auront lieu entre le 9 et le 11 septembre prochain. Les matchs retour une semaine plus tard. 6 clubs sont exemptés de ce premier tour en Ligue des Champions et 13 en Coupe CAF.
Tennis, Serena Williams annonce que le compte à rebours est enclenché concernant sa retraite.
C'est ce qu'a affirmé sur Instagram et dans une interview la star du tennis. Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. C'est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu'on fait, a expliqué Serena Williams, détentrice de 23 titres en Grand Chelem. L'Américaine de 40 ans dit vouloir se concentrer sur son rôle de maman, ses objectifs sur le plan spirituel pour découvrir une nouvelle, mais tout aussi passionnante Serena. Je vais savourer les prochaines semaines, a ajouté la plus jeune des sœurs Williams, sans préciser la date exacte de sa retraite. Hier, Serena Williams a remporté sa première victoire depuis plus d'un an au tournoi WTA 1000 de Toronto, moins de trois semaines avant le début de l'US Open, où elle figure sur la liste des engagés.
Tennis toujours, Naomi Osaka, elle, abandonne.
L'ex numéro 1 mondial a quitté le court hier lors de son match d'ouverture au WTA 1000 de Toronto en raison de douleurs au dos soulevant des inquiétudes alors qu'approche l'US Open. L'Estonienne Kaia Kanepi menait 7-6-3-0 Lorsque la quadruple vainqueur en Grand Chelem a abandonné, Naomi Osaka n'a disputé que 6 matchs avec un bilan de 2-4 depuis sa défaite en finale du WTA 1000 de Miami début avril face à la numéro 1 mondiale Iga Świątek. L'US Open qu'Osaka a remporté en 2018 et 2020 doit se dérouler du 29 août au 11 septembre.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé hier en RDC. À l'occasion de cette visite, une dizaine de représentants des mouvements citoyens et des laïcs protestants ont déposé le même jour un mémorandum de plaidoyer à l'ambassade des États-Unis. Ce mémo est destiné au gouvernement américain par le canal du chef de la diplomatie américaine. Notre correspondant à Kinshasa, Alex Kati Kataï, nous en dit plus.
Dans ce mémo, le mouvement citoyen et les laïcs protestants demandent aux États-Unis de s'impliquer dans la résolution du conflit dans l'est de la RDC. Jeff Mbambi, président du ministère des laïcs protestants, qui a conduit la délégation, affirme que les États-Unis ont un rôle important à jouer dans la fin des tueries dans l'est du pays.
Les États-Unis ont un rôle important à jouer dans une paix définitive en République démocratique du Congo. Et cette paix-là passe par le renforcement de nos forces armées et forces de sécurité. Parce que si nous ne sommes pas capables de protéger, de défendre notre espace territorial, nous serons toujours en difficulté avec nos voisins prédateurs. Et raison pour laquelle nous avons pensé au niveau des forces sociales et politiques de la nation, à travers notre jeunesse, et que nous devrions présenter un mémorandum de plaidoyer au gouvernement américain à travers le secrétaire d'État Blinken qui arrive aujourd'hui.
Les mouvements citoyens demandent aux États-Unis de peser de leur poids pour la levée de l'embargo sur les armes imposées à la RDC par l'ONU. Ces mouvements estiment que cet embargo affaiblit la RDC face à ses ennemis. Saïd Izaïna du mouvement citoyen Bilenge Banakin.
Si vous voulez la paix, préparez la guerre. Alors si on n'a pas les armes, on va préparer la guerre comment? Et puis on va comment nous battre par rapport à ce qui se passe dans notre pays? Les États-Unis doivent nous soutenir, doivent nous prêter main forte et doivent enlever cet embargo. Doivent vraiment enlever cet embargo pour que nous puissions avoir les armes pour nous défendre, pour défendre notre terre.
Un autre point contenu dans ces mémos, c'est celui des élections générales de l'an prochain. Pour les laïcs protestants, le gouvernement américain doit aider le gouvernement congolais à organiser des élections inclusives et transparentes en 2023.
Nous demandons les États-Unis de discuter avec leur homologue congolais, donc le pouvoir de Kinshasa, pour que les élections, le processus électoral soit consensuel et que certaines dispositions soient prises pour que les élections soient apaisées, inclusives et justes.
Un représentant de l'ambassade des États-Unis en RDC a réceptionné ces mémos de main des responsables des mouvements citoyens présents. Quant à M. Blinken, qui est arrivé ce mardi à Kinshasa, il s'entretient avec le président Félix Tshisekedi avant de se rendre au Rwanda mercredi. Alex Kati Kataï, Kinshasa, VOA Afrique.
Avant Kinshasa, le secrétaire d'État Blinken était en Afrique du Sud où lundi il avait prononcé un discours sur la stratégie des États-Unis pour l'Afrique subsaharienne à l'université de Pretoria. Kate Bartlett a parlé à certains des étudiants qui ont suivi ce discours. Récit de Nani Talani.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a souligné la valeur de la démocratie et les menaces qui pèsent sur elle. Il a aussi affirmé que l'Afrique est un partenaire égal avec lequel les États-Unis veulent travailler et sans rien lui dicter.
As you've heard, by 2050,
d'ici 2050, une personne sur quatre sur la planète sera africaine. Ces personnes vont façonner le destin non seulement de ce continent, mais du monde.
Anthony Blinken a aussi évoqué le coût que la pandémie de COVID-19 a porté à l'Afrique et aux économies africaines, ainsi que l'insécurité alimentaire qui, selon lui, a été aggravée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il a par ailleurs abordé un large éventail de questions comme la prévention des conflits, la désinformation, la science, la technologie, le changement climatique et l'énergie propre. Alors, qu'en pensaient les étudiants sud-africains du discours du chef de la diplomatie américaine? Zafeshia Dlamini est une étudiante qui vient de terminer une maîtrise en sciences politiques. Elle demeure sceptique.
Écoutez, chaque politique étrangère, chaque intérêt national sera toujours un intérêt national. Ce n'est pas le nôtre, nous le savons. Alors n'essayez pas de le présenter comme s'il s'agissait d'un intérêt commun.
Elle pense aussi que le chef de la diplomatie américaine ne s'est pas exprimé sur la manière dont la politique intérieure américaine influence le reste du monde. Elle a fait référence au revirement de la Cour suprême des États-Unis sur l'avortement. Selon la jeune étudiante, M. Blinken aurait dû en parler. Billy Botabelo Manama, 22 ans, étudiant en relations internationales, estime que le discours de Blinken encourage fortement la bonne gouvernance qui, selon lui, a parfois été un problème sur le continent.
Regardez, beaucoup a été mentionné sur la démocratie, à juste titre, en regardant l'histoire de l'Afrique.
Il ajoute que les États-Unis, comme l'Afrique du Sud, ont des relations similaires en matière d'égalité raciale et des droits de l'homme.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la nouvelle stratégie américaine en Afrique. Lors de sa tournée sur le continent, le patron du département d'État, Anthony Blinken, compte mettre en valeur la vision de Washington pour le continent dans un contexte de poussée russe et chinoise. La démocratie, la relance économique post-Covid, la sécurité, le climat et la transition énergétique sont les grands axes de la réorientation de la politique américaine en Afrique. Vers quel type de relation entre Washington et le continent? Comment l'Afrique, convoitée par les grandes puissances, peut-elle profiter de cet intérêt envers elle? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Au Kenya, plus de 22 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce mardi dans plus de 46 000 bureaux de vote. Les Kenyans doivent choisir 6 postes électifs dont celui de président. Le vote s'est déroulé pour l'essentiel dans le calme et le dépouillement a commencé. Les détails dans ce reportage de Mohamed Youssouf à Nairobi, le récit est de Rosine Mounezero.
Il y a plus de 22 millions d'électeurs inscrits. Ils doivent choisir le président, les gouverneurs, les sénateurs, les membres de l'Assemblée nationale et les élus locaux. Peu après l'ouverture des bureaux de vote, un candidat à l'élection parlementaire de la circonscription de Rongai dans le comté de Nakuru a été suspendu après des erreurs dans le bulletin de vote. Cette suspension a conduit les résidents à barricader les routes et à allumer des feux pour exprimer leur mécontentement. Certains Kenyans à travers le pays ont signalé que le système d'enregistrement biométrique ne fonctionne pas ou prend du temps à identifier les électeurs. Ce système d'identification dans le centre du pays n'a pas pu reconnaître les empreintes digitales du colistier de William Ruto, Rigathi Gachagua, qui a été reconnu par le registre manuel des électeurs et a finalement eu le droit de voter. Mwangi Kevin, un électeur de Nairobi, a dû attendre longtemps avant de pouvoir voter.
Le processus est bon. Le seul défi que nous avons eu au début était l'attente. Je pense qu'ils ont ouvert vers 6h30 du matin, donc le temps d'attente pour moi était de 3h, mais au fur et à mesure que nous avancions, les choses ont bien fonctionné.
Rahab Kamau, 44 ans, est satisfaite du déroulement de son bureau de vote, situé juste en face du Parlement, dans le centre de Nairobi.
Je n'ai jamais voté aussi tôt et venir tôt aide beaucoup. Dans cette élection, les agents de la commission électorale sont bien organisés. Il n'y a pas beaucoup de monde et il y a moins de confusion. S'il est indiqué qu'une personne se trouve dans la ligne 9, cette personne doit se rendre dans cette ligne et voter.
Selon elle, son vote va changer sa vie et celle de ses compatriotes.
J'espère que mon pays aura quelqu'un pour qui les Kenyans ont voté, quelqu'un qui craint Dieu. Nous voulons un dirigeant qui puisse nous aider à réduire le fardeau financier, la cherté de la vie et le manque d'emploi.
La sécurité est renforcée dans tout le pays. Kiproti Saidi Mohamed est l'officier en charge des opérations de sécurité dans la région de Nairobi.
Notre principale préoccupation est la sécurité des bureaux de vote, des agents électoraux, un matériel de vote et de l'environnement autour des centres de vote et plus tard des centres de dépouillement. Nous avons déployé suffisamment d'agents de sécurité, non seulement dans les bureaux de vote, mais aussi dans l'ensemble de la ville pour nous assurer que tout se passe bien.
Il s'agit de la 7e élection générale depuis l'instauration de la démocratie multipartite. Pour gagner la course à la présidence, un candidat doit avoir plus de 50% des voix. S'il n'y a pas de vainqueur clair, les Kenyans devront retourner aux urnes pour un second tour de scrutin.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Le chef de la junte au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a signé lundi au Qatar un accord avec une quarantaine de factions rebelles sur l'ouverture d'un dialogue national le 20 août à N'Djamena. D'importants groupes rebelles ont refusé de paraffer le texte, dont l'Union des mouvements pour la démocratie et le développement au Tchad. Yacouba Ouédraogo a joint Mahamat Ali Youssouf, président de l'UMDD.
Nos revendications sont rejetées par le Conseil militaire de transition, pourquoi nous on n'a pas signé l'accord. Nous avons demandé, entre autres, la parité au comité de dialogue national inclusif, COTMI, le CMT a rejeté, le Conseil militaire de transition, le quota au dialogue national inclusif souverain a rejeté aussi. On a demandé la participation de tous les partis politiques, la société civile, participer à ce dialogue, n'a pas donné de suite. Et aussi, on a demandé la réforme de l'armée nationale, c'est une armée clanique, et la modification des charges de transition. Toutes ces revendications, le CMT a refusé.
Qu'est-ce que la junte militaire au pouvoir vous a répondu lorsque vous avez posé toutes ces revendications-là?
Ils ont envoyé plusieurs projets par l'intermédiaire des médiateurs, et toutefois, on a modifié. Nous, on a dit, ça, c'est le point essentiel. On peut discuter avec eux, et qu'on peut négocier. Et on n'a jamais fait une réunion globale entre les médiateurs et le CMT, et le gouvernement du Tchad sur le projet d'accord. On n'a jamais fait une réunion ensemble pour discuter, pour voir chacun va apporter sa contribution. On n'a jamais fait ça. Donc on est en train d'échanger avec des textes et ils nous envoient un texte. Nous, on retourne avec des textes, avec nos revendications. C'est comme ça qu'on est en train de fonctionner.
Même si tout le monde était réuni à Doha au Qatar là-bas?
Par exemple, on ne nous a jamais mis en assemblée. Au début, c'était prévu avec le gouvernement et le côté d'opposition et la médiateur qui essaie de faire centrer les choses. Le gouvernement n'a pas voulu ça parce qu'ils n'ont pas la volonté de faire une paix durable au Tchad.
Vous dites quand même être ouvert au dialogue. Comment ça va se passer par la suite? Le dialogue national commence le 20 août, ça sera sans vous?
Ça sera sans nous, ça sera sans aussi les partis politiques et la société civile qui ont aussi rejeté ce dialogue parce que ce n'est pas un dialogue national où tout le monde sont là, c'est-à-dire la CONIC, c'est MPES, tous les militants de MPES qui sont dedans. Donc nous, on n'a pas de voix, même le politico-militaire, ils n'ont pas donné de place, ils n'ont même pas donné de quota. Et comment nous, on peut hasarder à se présenter à N'Djamena, même notre sécurité n'est pas assurée.
Le gouvernement dit garantir la sécurité de tous ceux qui viendront au dialogue.
Comme c'est la continuité du régime d'Idriss Déby, nous connaissons le sort de ceux qui ont signé des accords avec Idriss Déby père, qui ont été assassinés en pleine capitale.
Qui a été assassiné et quand?
Abbas Koti, Yusuf Togomi, aussi des avocats, des gens des droits de l'homme, Maître Bidi, ont tous assassinés en pleine ville, même l'opposant Ibn Omar était assassiné en pleine capitale, donc personne n'est capable de faire des enquêtes, faire sortir la vérité. Donc pour cela, on ne peut pas prendre ces risques pour aller à N'Djamena, hasarder notre vie.
Qu'est-ce que vous allez faire maintenant par la suite, maintenant que vous refusez de participer au dialogue national?
On va se concerter, ceux qui n'ont pas signé ces accords, on va voir dans quelle mesure on peut sauver ces quatre qui est en train de couler. Là. Le bateau est en train de couler, vous voyez, il y a eu des guerres à la frontière entre le Tchad et le Soudan. Là. Le Soudan a déjà fermé la frontière avec la Libye, c'est la même chose.
L'accord prévoit quand même un cessez-le-feu, même si vous n'avez pas signé, est-ce que vous allez arrêter de tirer?
Nous, on n'a pas signé, c'est le gouvernement qui fait les actions qui nous attaque. Si nous attaque, nous, on va le replier.
Mahamat Ali Youssouf, président de l'Union des mouvements pour la démocratie et le développement au Tchad. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Seydoudia, à la mise en onde Fatouma Kalala Limassi, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour en suivre de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.